Chapitre 19. Luc seul nous parle de la conversion de Zachée, ce qui est remarquablement en harmonie avec le thème de son évangile. Le publicain, bien que profondément méprisé par les chefs de son peuple, était un objet tout indiqué pour recevoir la grâce du Seigneur, et il se distinguait par la foi qui est prête à recevoir cette grâce. Zachée n'avait pas de besoin corporel ou matériel. Pour lui, il s'agissait uniquement de besoins spirituels. Les gens le traitaient de pécheur. Le mot était juste, et Zachée le savait. Néanmoins, cela l'incite à essayer de gagner la faveur du Seigneur par l'exposé de ses bonnes œuvres et de sa scrupuleuse honnêteté. Jésus, toutefois, place sa bénédiction sur le fondement qui convenait, en déclarant que Zachée est fils d'Abraham, c'est-à-dire un véritable enfant de la foi, tandis que lui-même est celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée, par nature, était perdu. Cependant, c'était un croyant, et ainsi le salut lui parvient en ce jour-là. C'est exactement sur le même fondement que le salut parvient à chacun d'entre nous depuis ce jour-là. Le Seigneur avait montré aux pharisiens que le royaume était déjà au milieu d'eux en sa propre personne. Il avait aussi reparlé à ses disciples de sa mort imminente et de sa résurrection. Cependant, ceux-ci caressaient encore l'espoir de voir apparaître sans délai le royaume en gloire. Aussi le Seigneur ajoute-t-il la parabole des versets 11 à 27 comme correctif à leurs pensées erronées. L'heure du royaume viendrait, et alors tous ses ennemis seraient détruits. Mais il y aurait d'abord le temps de son absence, pendant lequel la fidélité et la diligence de ses serviteurs seraient mises à l'épreuve. À chaque serviteur est confiée la même somme, si bien que la différence dans les résultats provient de leur diligence, de leur savoir-faire ou de quelque autre motif. C'est selon leur diligence qu'ils seront récompensés au jour du royaume. Le serviteur qui n'a eu aucune activité montre seulement qu'il ne connaissait pas son maître. Le résultat, non seulement il n'a pas de récompense, mais il subit une perte. Cela nous rappelle une fois de plus que la grâce nous appelle à une position de responsabilité et de service, et que notre place dans le royaume dépendra de la diligence avec laquelle nous aurons employé ce qui nous a été confié. Après avoir exposé la parabole des talents, le Seigneur va devant ses disciples, montant à Jérusalem. Et comme il approchait de Bethphagée et de Béthanie, il envoie chercher l'annon sur lequel il fait son entrée dans la ville, selon la prophétie de Zacharie, Zacharie 9, verset 9. L'annon n'était pas dressé, car personne ne s'était jamais assis dessus. On le détache, mais seulement pour que le Seigneur puisse s'asseoir dessus. Quoique le royaume ne fût pas sur le point d'être établi en gloire à ce moment-là, le Seigneur, ainsi monté sur l'annon, se présente sans équivoque à Jérusalem comme son roi légitime, envoyé par Dieu. Ses disciples aident en cela, et comme ils approchent de la ville, ils se mettent à louer Dieu et à se réjouir. Jean 12, verset 16, nous dit très clairement qu'ils ne comprirent pas vraiment alors ce qu'ils faisaient. Cependant, il est évident que l'Esprit de Dieu les saisit et les dirigea dans leurs paroles. Ils l'acclament comme roi et parlent de paix au ciel et gloire dans les lieux très hauts. Lors de l'incarnation, les anges avaient proclamé « Sur la terre, paix !» car l'homme du bon plaisir de Dieu était apparu, et ils célébrèrent le résultat complet de son œuvre. Mais maintenant, il est clair que la mort se dressait devant lui et que son rejet allait entraîner pour un temps tout autre chose que la paix sur la terre. Néanmoins, le premier résultat de son œuvre à la croix serait d'établir la paix dans la cour la plus haute qui soit, dans les cieux, et de manifester la gloire dans les lieux très hauts, lui-même y montant en triomphe. Il fallait que cette note de louange se fasse entendre à ce moment précis. Dieu aurait pu faire crier les pierres, mais à leur place, il emploie la bouche des disciples, bien qu'ils aient prononcé ces paroles sans comprendre totalement leur signification. Voici maintenant un contraste frappant. Comme ils approchent de la ville, les disciples se réjouissent et louent le roi à haute voix. Le roi, lui, pleure sur la ville. En Jean 11, verset 35, Jésus pleura. Le mot employé indique des pleurs silencieux. Ici, le verbe indique se répandre en lamentations, de façon visible et audible. Les lamentations de l'Éternel sur Israël, rapportées au psaume 81, verset 13, réapparaissent ici, mais beaucoup plus poignantes, alors que s'approchait le moment où la nation allait commettre le plus grand de tous ses péchés. Jérusalem ne connaissait pas les choses qui appartenaient à sa paix, verset 42. C'est pourquoi la paix sur la terre était impossible à ce moment-là. Et le Seigneur prévoit et prédit sa destruction par la violence perpétrée par les Romains 40 ans plus tard. L'Orient d'en haut les avait visités et ils n'avaient point connu le temps de leur visitation. En conséquence, tout était en désordre dans Jérusalem. En entrant dans la ville, le Seigneur se dirige tout droit vers son centre même et il trouve le mal installé dans le temple. La maison de l'Éternel, destinée à être une maison de prière pour toutes les nations, n'était qu'une caverne de voleurs, si bien que tout étranger, montant au temple pour y rechercher Dieu, était victime d'escroquerie lorsqu'il voulait obtenir les victimes pour les sacrifices. De ce fait, il était repoussé loin du vrai Dieu au lieu d'être attiré à lui. Ainsi, dans les mains des hommes, la maison de Dieu avait été complètement détournée de son usage propre. De plus, les hommes qui avaient l'autorité dans la maison étaient virtuellement des meurtriers, comme le montre le verset 47. Aussi était-elle devenue une citadelle de meurtriers en même temps qu'une caverne de voleurs. Pouvait-il y avoir quelque chose de pire? Il n'est pas étonnant que Dieu l'ait détruite de fond en comble par la main des Romains 40 ans plus tard.